Voilà, ouvrez vos Bibles à Marc chapitre 10, et j'aimerais que nous lisions les versets 13 à 16. J'ai intitulé mon message ce matin tout simplement « Comment conduire nos enfants à Christ ?» Comment conduire nos enfants à Christ ? On va lire Marc 10 à partir du verset 13. Parlant de Jésus donc, « On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche. » Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Bien que Dieu bénisse sa parole ce matin, 4 versets courts mais remplis de vérité, j'espère qu'ils vont nous encourager. Alors je pense qu'on peut dire que tout parent chrétien s'est déjà posé à multiples reprises la question suivante. Comment faire pour conduire mon enfant à Christ? Que dois-je faire pour que mon enfant veuille placer sa foi en Christ afin d'être pardonné et sauvé par Jésus, afin qu'il reçoive la vie éternelle? Alors ce matin, j'aimerais traiter ce sujet, mais alors j'aimerais vraiment que vous écoutiez ce que je vais dire maintenant. Non pas comme un parent qui a tout compris, non pas du tout. Mais comme un parent qui continue de prier tous les jours pour mes enfants, afin que ceux-ci vivent à la gloire de Dieu dans chaque domaine de leur vie. Je viens à vous en tant qu'homme faible, qui n'a pas toutes les réponses, mais qui tente de sonder les Écritures pour essayer d'en tirer les principes qui aideront nos enfants à suivre Christ pour le reste de leur vie. Excuse-moi Serge, apparemment... J'ai déplacé la chaire, mais apparemment, ça fait que Serge doit déplacer le projecteur. Ça va maintenant? D'accord, j'ai complètement changé la donne ce matin. Mais j'aime bien être au centre, alors voilà, peut-être il faudrait qu'on discute pour les prochaines fois, ce serait bien. Excuse-moi, vraiment. Donc voilà, comment faire pour que nos enfants viennent à Christ? Et comme j'explique, je ne suis pas un pro, comme vous, je fais de mon mieux. Donc le passage que je viens de lire est intéressant. Ici, des parents, vraisemblablement, on va en parler, amènent leurs enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Alors, la réaction des disciples surprend. Alors, analysons ce texte que j'ai découpé en trois parties toutes simples. Premièrement, l'empressement des parents, verset 13. « On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche. » C'est tout simple. Vous rappelez peut-être les versets précédents. Jésus vient de donner un discours important sur le mariage, le divorce et le remariage, qu'on a vu les deux dernières fois. Le lien semble être naturel. Ce sont maintenant les enfants qui reçoivent l'attention de Jésus. Alors le texte ne nous dit pas en définitive qui étaient ceux qui apportaient ces enfants. Nous supposons donc que c'était tout simplement les parents. Mais il dit « on lui amena des petits-enfants », probablement les parents. Le mot grec pour enfant est intéressant, le mot païda, qui se réfère à des petits-enfants. Les traducteurs semblent avoir bien traduit le texte ici, parce qu'il dit qu'on lui amena des petits-enfants. Luc est encore plus explicite et dit qu'ils apportaient des nourrissons. Et le mot que Luc utilise, un peu différent, c'est le mot pour un nouveau-né, un nourrisson, un bébé. Donc il s'agit vraiment d'enfants, de petits-enfants. On ne sait pas exactement quel âge ils avaient, mais ils étaient petits. Alors, question, est-ce que ceci vous paraît étrange que des parents aient amené leurs enfants à Jésus afin qu'ils les bénissent? Ben, ça ne devrait pas. Premièrement, c'était une coutume juive. C'était une coutume d'amener ses enfants au rabbin du village pour qu'il les bénisse. Le Talmud enseignait que les parents devaient amener leurs enfants à un rabbin respecté pour qu'il les bénisse, pour qu'il prie pour eux. La coutume commandait au père d'amener son enfant dans la synagogue, de prier lui-même pour l'enfant, Puis il donnait l'enfant aux anciens qui, un après l'autre, prenaient l'enfant et demandaient la bénédiction de Dieu sur cette vie. Et puisque Jésus était considéré le Messie par la population, il est compréhensible qu'ils lui apportent leurs enfants pour qu'il les bénisse. C'est d'ailleurs, vous vous rappelez, ce qu'ont fait Joseph et Marie avec leur enfant Jésus, dans Luc 2, verset 21. Il est dit, le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Donc même Marie et Joseph prennent Jésus et le présentent lui au Seigneur. Et on voit le précédent de ceci dans Exode 13, la présentation des enfants où le peuple juif remerciait Dieu en présentant leur premier-né parce qu'ils avaient été épargnés le massacre par l'ange de l'Éternel des Égyptiens. On voit aussi dans 1 Samuel 1, 22 que Anne, la maman de Samuel, a fait pareil. Au verset 22, « Mais Anne ne monta point, elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Et au verset 28, « Aussi je veux prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera là devant l'Éternel. » Donc ce n'est pas du tout une chose étrange que d'amener son enfant pour le présenter au Seigneur, pour que quelqu'un prie pour lui. En fait, c'est ce que beaucoup d'églises font, dont la nôtre. On suit encore cette coutume, c'est une coutume, ce n'est pas imposé, ce n'est pas obligatoire. Mais on le fait souvent, les enfants sont amenés à l'église où nous les présentons au Seigneur en priant pour eux et en priant pour les parents. Donc c'était la coutume. Mais il y a aussi tout simplement le côté de la tendresse de Jésus. Pourquoi est-ce que ses parents amènent leurs enfants à Jésus ? Eh bien réfléchissez un instant à ce que les mains de Jésus avaient déjà fait effectuer. Beaucoup de ses parents avaient vu les mains de Jésus guérir des maladies incurables, à éliminer des douleurs de manière miraculeuse. Ils avaient vu les mains de Jésus redonner vue à des aveugles, guérir des lépreux, apporter soulagement à de nombreuses personnes malades. Peut-être que ses parents espéraient que les mains de Jésus touchent leur enfant, pas pour qu'il soit guéri, parce qu'apparemment ils étaient... guéri, je pense à la plupart. Ce n'était pas nécessairement malade ou infirme ou de manière grave. Mais peut-être qu'ils espéraient une sorte d'infime partie de cette même bénédiction venue des mains de Jésus. Alors le verbe est intéressant. On lui amena des petits-enfants. Marc et Luc, dans leur évangile respectif, utilisent ici le verbe qui signifie que cette activité était continue. Elle s'étendait sur la durée. Ce n'est pas simplement un groupe qui vient, tac, ils vont voir Jésus, ils repartent. Non, c'est un sort de flot continu de parents qui viennent et qui amènent leurs enfants dans l'espoir qu'ils soient touchés et bénis par Jésus. L'amour et l'estime que Jésus avait pour les enfants n'étaient rien de nouveau. Dans Matthieu 17, 18, il avait chassé un démon d'un enfant. Dans Matthieu 18, 2, il avait utilisé un enfant pour illustrer comment nous devrions venir à Christ d'une manière humble, comme un enfant. Et dans Jean 4, 50, il avait aussi guéri le fils du centenier romain. À un autre moment, je ne me rappelle plus exactement le texte, il y a un enterrement d'un jeune garçon. Jésus arrête l'enterrement et il ressuscite le garçon. C'est dans Luc, je ne me rappelle plus le chapitre. Non, il aimait, bien sûr, évidemment, il aimait les enfants. Alors, parents, si votre désir est de voir votre enfant venir à Christ, de vouloir l'amener à Jésus pour qu'il soit béni de lui, alors sachez que vous êtes en bonne compagnie. Déjà à l'époque de Jésus, c'est ce que les parents voulaient faire et faisaient. Et si Jésus était ici aujourd'hui en personne, peut-être seriez-vous dans le groupe de ses parents qui auraient fait le déplacement avec vos enfants pour espérer que votre enfant soit touché et béni par Jésus. Deuxième point, l'irritation des disciples. Verset 13. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touche, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. C'est quand même marrant. Hein. Vous savez, moi, des versets comme ça me prouvent que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Parce que si vous et moi, on avait décidé d'écrire un livre religieux, on ne mettrait pas un truc comme ça là-dedans. On ne mettrait pas ça. On ferait tout pour que tout soit beau et bien. Non, ben là, on voit vraiment que les disciples ont un problème. Ils ont un problème. Les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Ils sont indignés de cette intrusion. Alors ils les repoussent. Matthieu 19, 13 utilise le même mot en grec, mais le mot est traduit différemment. Repousser, repousser. Donc le même mot est traduit ici, reprir, là-bas, dans Matthieu, repousser. Alors il veut quoi dire? Il veut dire quoi ce mot? Bien, littéralement, il veut dire menacer, reprendre, parler sévèrement ou réprimander. Dans Matthieu 8, 26, c'est le même mot qui est utilisé lorsque Jésus, vous voyez, il est dans un bateau, il y a un orage, et tout d'un coup, il parle à l'orage, et il reprend l'orage et le vent, et tout se calme. C'est le même mot. Matthieu 17, 18, c'est le même mot utilisé lorsque Jésus reprend un démon. Et en plus, Marc utilise l'imparfait qui suggère que les réprimandes se faisaient au fur et à mesure que venaient les parents avec leurs enfants. Donc il y avait une sorte de ribambelle de gens qui arrivaient et les disciples, ils les disaient « Non, écoute, tu déranges, partez, vous dérangez. » Donc la scène est claire. Des parents venaient avec leurs enfants, mais les disciples ne voulaient pas être dérangés et ne voulaient pas non plus que Jésus soit dérangé par des enfants. Alors les enfants disent « Non, rentrez chez vous. » Imaginez si on faisait ça à l'église. Hein? Non, écoutez, on ferme les portes, terminé, là, vous pouvez plus venir. Non, vous dérangez. Vous allez voir, c'est le monde à l'envers, là, quand même. Apparemment, les disciples avaient encore pas mal de choses à comprendre et à apprendre. Troisième point. L'accueil de Jésus. L'accueil de Jésus. Verset 14, Jésus, voyant cela, fut indigné. Et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Mais il les prit dans ses bras et les bénit et leur imposa les mains. Alors, ce verset nous apprend quelque chose d'intéressant, plusieurs choses intéressantes par rapport à Jésus. Premièrement, Jésus gronde les disciples. Il gronde les disciples. Jésus, voyant cela, fut indigné. Elle leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Le mot veut dire être en colère. Pourquoi est-ce qu'il est en colère? Il est en colère contre les disciples. Premièrement, parce que Jésus aimait les enfants. Il ne voulait pas qu'on leur barrait la route. Il savait aussi que les enfants ont besoin du Seigneur autant que les adultes. Il est indigné parce que Jésus aimait les parents qui lui apportaient les enfants. Jésus connaissait le cœur de chaque parent qui veut que son enfant vienne à Christ. Et il était mécontent du fait que les disciples bloquaient les parents d'amener leurs enfants. C'est tout simple. Et peut-être on peut dire que c'est parce que Jésus aime, il a toujours aimé ce qui est modeste. Avez-vous remarqué que Jésus est attiré par les faibles, les malades, les infirmes, les pauvres, les enfants? Jésus ne s'entourait pas uniquement des grands, des beaux, des forts, des puissants. Mais il savait, et ça on va le voir dans le texte qui suit, parce que le texte qui suit, c'est le jeune homme riche, qui lui avait tout. Il refusait de s'humilier comme un enfant, et il n'a pas reçu la vie éternelle. Ça on le verra la prochaine fois. Non, Jésus savait que c'était surtout les faibles qui ont le cœur ouvert à l'évangile. Et les disciples n'avaient pas encore appris cette leçon. Deuxième chose qu'on apprend, c'est que Jésus reçoit les petits-enfants. Non seulement il gronde les disciples, mais il reçoit les petits-enfants. Verset 14. Il fut indigné, leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Jésus dit tout simplement à ses disciples qu'il fallait laisser les enfants venir à lui. C'est important quand même. Jésus implique par ceci que les enfants, même à un très jeune âge, sont capables d'en comprendre assez sur sa personne, sur qui il est, peut-être même sur le péché, sur le salut, qu'ils peuvent croire en lui, parce qu'il dit tout simplement « laissez les enfants venir à moi ». Alors vous allez voir, on va faire le parallèle dans deux secondes. Je pense qu'il est en train de dire qu'il ne faut jamais sous-estimer la puissance du Seigneur à régénérer un cœur, même celui d'un petit enfant. On ne doit jamais empêcher un petit enfant de venir au Seigneur sous prétexte qu'il serait trop jeune pour comprendre. Jamais. Ah, c'est gentil. Merci. Les bonnes lois. Hein. Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse sur l'école du dimanche. Vous avez vu que tout à l'heure, nos enfants sont sortis pendant le dernier chant pour aller à l'école du dimanche. Alors, un petit mot sur l'importance de l'école du dimanche et sur les camps de jeunes. Hier soir, on a eu le privilège d'aller d'être avec les ados. C'était super, hier, donc à l'église Emmanuel à Genève. J'aimerais vous poser une question. Levez la main si ça vous concerne, d'accord? Combien de vous avez fréquenté l'école du dimanche dans une église en tant qu'enfant? Levez la main. Waouh! Dans un camp de jeunes. Qui est allé dans un camp de jeunes lorsqu'il était enfant? D'accord. Alors, question. Combien de vous avez rencontré le Seigneur, si vous vous rappelez, lors de l'école du dimanche ou d'un camp? Levez la main. Pas mal de vous. Quelques-uns, enfin, je ne sais pas comment on dit ça. Pas mal. Plusieurs, c'est bien. Donc vous voyez l'importance. L'importance de parler à nos jeunes et aux enfants. Dans notre église, dans l'EIG, nous avons aujourd'hui, apparemment, on nous a dit, environ 60 enfants qui fréquentent cette église. 4 classes d'école du dimanche. Chaque dimanche, les équipes de volontaires enseignent vos enfants sur comment eux peuvent connaître le Seigneur et vivre à sa gloire. Alors moi, j'aimerais suggérer 3 choses, d'accord? Ils ne sont pas là pour entendre ce matin les profs, les enseignants de l'école du dimanche. Numéro 1, remerciez ces personnes qui sacrifient le culte dimanche après dimanche pour enseigner vos enfants. N'oubliez jamais de les remercier pour ce sacrifice, pour l'investissement qu'ils font dans vos enfants. Appréciez-les, dites-leur merci. Vraiment, vraiment de tout cœur. Deuxième chose, c'est très pratique, offrez votre aide. Ce n'est pas un service de babysitting gratuit. Alors oui, c'est vrai que c'est gratuit, et oui que c'est du babysitting. Certains pourraient le percevoir comme cela. Non, mais c'est beaucoup plus, c'est un moment d'enseignement précieux pour leurs âmes. Puis-je aussi suggérer que chaque parent qui utilise ce service que nous offrons, si je peux le dire ainsi, devrait probablement aussi demander comment eux peuvent aider dans ce domaine. Pourquoi, si vous avez des enfants, d'aller demander à une des responsables, est-ce que vous avez besoin de mon aide? Ce serait logique, ce serait super sympa et ça va les encourager. Et si l'on vous demande de servir ou d'aider dans ce domaine d'une manière ou une autre, eh bien écoutez, n'hésitez pas un instant, dites avec plaisir, mettez-moi au travail, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse? J'ai aucune expérience, mais je veux bien apprendre. Écoutez, là, ils seront tellement contents. Et troisième chose, pour vos enfants, soyez fidèles et réguliers au culte. Vos enfants ont besoin d'y être. Votre fidélité et régularité influenceront vos enfants lorsqu'ils seront grands. Voyez-vous, si vous venez une fois par mois, disons, eh bien ne soyez pas surpris lorsque vos enfants seront grands et qu'ils iront au culte une fois par mois. Il ne faut pas être surpris. Et ne soyez pas surpris s'ils ont une vie spirituelle un peu médiocre. Ben, ils vont être exactement comme vous. Mais ça, on y reviendra. Donc, Jésus reçoit les petits-enfants. Et troisième chose qu'on apprend sur Jésus, c'est qu'il illustre une vérité ici. On est de retour au verset 14. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. » Ensuite, il donne la leçon, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. C'est intéressant que maintenant Jésus, il élargit un petit peu et il compare un enfant avec un croyant, avec un chrétien. Il ne parle plus aux enfants eux-mêmes, mais les utilise comme un exemple, comme il l'avait fait dans Marc 9, 36. Il dit qu'il faut devenir comme un petit enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors ça, c'est quand même étrange. Qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce qui caractérise un enfant comparé à un adulte qui fait dire à Jésus qu'il faut être comme un enfant pour rentrer dans le royaume de Dieu? Eh bien, alors j'ai réfléchi un petit peu à ça. C'est quoi certaines des différences entre un petit enfant et un adulte? Par exemple, globalement, les petits-enfants ne sont pas très compliqués. Les adultes, plus ils réfléchissent, plus ils deviennent compliqués des fois. Hein. Un enfant, il est humble. Ouais, d'accord, ouais. Les adultes, bon, une sorte d'orgueil qui vient avec l'âge aussi. Hein. Les enfants, ils sont simples. Simplicité. Les adultes, parfois, ils sont un peu compliqués. Et surtout, les enfants, ils croient facilement ce qu'on leur enseigne. Ah, les adultes, on devient tellement cartésien, on analyse tout. Pas les enfants. Ils ont une foi simple, comme le dit Lenski dans son commentaire, comme une fleur du jardin s'étire dans la direction du soleil, de même il y a dans l'enfant une inclinaison mystérieuse vers la lumière éternelle. C'est vrai, les enfants ne sont pas très compliqués. Moi j'y pense à leur habillement. Prenez un petit enfant, comment il s'habille? Il s'en fiche complètement, vous lui mettez n'importe quoi, il est content, lui, il va aller jouer. Les habits, c'est... Mais nous, les adultes, ça doit être parfait, miroir, repassé, ça doit être coordonné. Les enfants, ils s'en fichent de tout ça, ils veulent aller jouer. Leurs cheveux. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants, ils n'ont jamais appris ce qu'est un peigne, vous avez remarqué? Et ils s'en fichent complètement. Ce n'est pas important pour eux d'avoir des cheveux comme ça. Bon, certains adultes devraient aussi apprendre que les peignes existent. D'accord, mais ça c'est une autre chose, d'accord. Mais c'est vrai, leur foi, vous voyez, elle est pareille. Vous prenez un petit enfant, lui lisez une histoire biblique. Ben, il trouve super. Vous leur lisez l'histoire de Noé, l'arche de Noé. Oh, génial. Ils vont pas être... Mais non, c'est pas possible. Une arche sur le mont Ararat? Mais c'est impossible. L'arche sur la montagne, mais la mer est d'en bas. Comment est-ce possible? Non, je ne peux pas accepter ça. Non, ça c'est les adultes qui pensent comme ça. Un enfant, il croit. Il n'est pas compliqué. Quoi? Tu dis qu'un prophète Jonas a été avalé par un gros poisson dans la Méditerranée? Oui, c'est ce que la Bible dit. Mais non, c'est pas possible, c'est impossible. Il n'y a pas de poisson de cette taille dans la Méditerranée. Ils sont compliqués, les adultes. Les enfants, pas du tout. Pas du tout. Eux, ils trouvent super. Alors, bien sûr, c'est aussi dangereux. C'est dangereux parce qu'on peut facilement les induire dans l'erreur. Mais ici, Jésus les utilise comme exemple d'une foi simple pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut leur apprendre la vérité. Et donc, pour rentrer dans le royaume de Dieu, même en tant qu'adulte, il faut avoir cette foi simple comme un enfant. Verset 15, Jésus répète, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Alors, il y a deux détails très intéressants. Là, maintenant, on parle de comment rentrer dans le royaume de Dieu. Et il utilise l'enfant pour expliquer la foi qu'il faut avoir pour y rentrer. Premièrement, on apprend que le royaume de Dieu se reçoit. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu. Donc c'est quelque chose à l'extérieur de l'homme qui à un moment donné est reçu. Et deuxièmement, il dit, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Donc on le reçoit, mais c'est aussi quelque chose dans lequel on peut rentrer. qui veut dire qu'avant d'y rentrer, on n'est pas dedans. C'est très important. Jean 1, 12 nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, parlant de Jésus, Jésus qui est mort et ressuscité, Jésus, lui qui est mort pour nous pardonner nos péchés, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que, à un moment donné, on n'est pas enfant de Dieu. Mais lorsqu'on place sa foi en Jésus-Christ, lorsqu'on reconnaît notre péché à un moment donné, et on lui demande de devenir notre sauveur et notre Seigneur, parce que lui qui est mort et ressuscité, c'est le seul qui peut me pardonner parce qu'il est mort à ma place, lorsque je lui demande de faire ça, à ce moment-là, je deviens enfant de Dieu. C'est ce qu'il dit. C'est une nouvelle naissance que je reçois en moi, un don de Dieu. Dans Jean 3, c'est ce qu'on apprend aussi. En vérité, Jean 3, 3, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est intéressant. Donc, il y a cet endroit ou cette chose qui s'appelle le royaume de Dieu, la sphère où Dieu habite. Nous sommes à l'extérieur. Et à un moment donné, je suis convaincu de mon péché, je crois en Jésus-Christ comme le Seigneur de ce royaume, il me pardonne mon péché, et là, d'une manière spirituelle, invisible et miraculeuse, je deviens un enfant de Dieu et je suis transplanté dans ce royaume de Dieu. C'est invisible. Mais pourtant, c'est la pure et simple vérité. Et les seules personnes qui peuvent rentrer dans ce royaume sont les personnes comme ces enfants qui croient d'une manière non compliquée, qui ont une foi simple. C'est pour ça qu'il faut revenir dans 2 semaines, mes amis. Parce qu'ici, on voit l'exemple d'une foi simple, et dans le texte qui suit, on voit l'exemple d'une, j'ai envie de dire, foi compliquée, pire que ça, une foi qui ne réussit pas à permettre qu'un homme rentre dans le royaume des cieux. La porte lui est fermée parce que sa foi est fausse. Donc c'est très important de revenir pour avoir le contraste. Le jeune homme riche. Alors au verset 16 maintenant. Puis, il les prit dans ses bras, parlant des enfants, et il les bénit en leur imposant les mains. C'est beau, non? Cette scène, c'est beau. Certains prétendent que Jésus ne riait jamais, qu'il était plutôt sérieux et sobre du fait que la Bible ne dit jamais explicitement que Jésus a ri. Moi, je pense personnellement qu'il est probablement impossible de prendre un petit enfant dans tes bras sans sourire, voire rire. C'est même pas possible, je pense. Les enfants font rire. C'est aussi simple que ça. Des fois, ils font pleurer aussi, on est d'accord. Mais ils font aussi rire, d'accord. Donc il les prend dans ses bras, il les bénit et leur impose les mains. Hein, on s'imagine ce groupe d'enfants turbulents, joyeux qui viennent dans ses bras. On peut qu'imaginer un immense sourire sur le visage de Jésus. Il leur impose les mains à la fois sur la tête comme un symbole d'une réelle bénédiction et il prie pour eux. Il prie pour eux. Et ça, mes amis, c'est l'histoire. Elle est toute simple. Alors je vais l'appliquer. Appliquons l'histoire. Qu'est-ce qu'on va tirer de ces 4 versets? Je crois qu'il y a 2 vérités qui ressortent. Ce texte, premièrement, nous aide à comprendre comment recevoir et rentrer dans le royaume de Dieu. Une foi simple en Jésus seul. En Jésus qui lui est le seul qui a donné sa vie et qui a ressuscité les morts, qui a vaincu le péché, qui a vaincu la mort. Et qui peut vraiment nous donner gratuitement la vie éternelle. C'est le seul. Ce texte nous aide deuxièmement à savoir comment amener un enfant à Christ. Et moi j'aimerais un petit peu parler de ce point-là. Jésus encourage les enfants à venir à lui. De ce fait, il encourage les parents à amener les enfants à lui, à Jésus. Alors je me suis posé la question, alors comment faire ? Comment on fait pour amener notre enfant à Christ, afin qu'il puisse croire en lui et être sauvé, puisqu'il utilise l'enfant comme une foi simple? Alors je crois qu'il y a quatre responsabilités. Les parents ont quatre responsabilités. Numéro un. Les parents doivent se rappeler que leurs enfants leur sont prêtés par le Seigneur. Leur sont prêtés. Le psaume 127, verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Tout est dit. Les fils sont un héritage de l'Éternel. Dieu nous fait cadeau. C'est un cadeau qu'on reçoit à nos enfants. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. On a aussi vu dans 1 Samuel 1:28. Anne, elle dit par rapport à son fils, « Aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Vous vous rappelez l'histoire, elle avait prié pour un fils, elle était sans enfant. Elle a dit, « Mais Dieu, écoute, si tu me donnes un fils, ce sera ton fils, c'est ton enfant. » Dieu lui a donné un enfant. Et là, littéralement dans son cas, elle apporte son fils à la maison de l'Éternel et l'offre au Seigneur. Quelque part, Dieu nous donne nos enfants, mais ce ne sont pas vraiment nos enfants. Moi, j'y pense un jour, je vais certainement, probablement mourir avant mes enfants, pour qu'ils ne mourront plus. Ils n'auront plus. Ils seront tout seuls. Donc, c'est comme si nos enfants nous ont été prêtés. Nous, notre fils aîné, maintenant, il est déjà parti. Il a un boulot, comme vous le savez, il travaille au Maroc. Puis des fois, je vais dans sa chambre et je me dis, c'est quand même dingue de penser qu'il va jamais probablement revenir habiter ici, en permanence. Terminé. Alors, on sait bien, heureusement qu'il y a Skype et tout ça, il revient pour les vacances. Mais probablement qu'il ne va plus jamais habiter avec nous. Ça fait un peu drôle. Je me dis, waouh, 25 ans, parti. Fini, terminé, on ne le verra plus jamais. Non, c'est pas vrai, d'accord. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un drôle de truc. Alors, on va dans sa chambre, hein, comme des parents, là. Oh, il n'est plus là, maintenant, c'est une chambre d'invité. C'est un peu bizarre, quand même. Ben ouais. On est tous pareils. Hein. Donc, nos enfants sont prêtés. Et alors, bien sûr, vous l'entendez toujours, à mon âge, hein, vous allez m'entendre dire plus en plus ça. Ça va tellement vite. Hein? C'est vrai, ça va tellement vite. Deuxième chose qu'il faut faire, les parents doivent se rappeler que leurs enfants doivent être instruits. Donc, ils me sont prêtés, mais ensuite, à nous de les instruire. Proverbe 22:6 dit quoi ? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, c'est un verset qui trouble beaucoup de gens, surtout des parents qui ont des enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur. Il faut noter que ce n'est pas une promesse, c'est écrit comme une promesse, mais ce n'est pas une promesse, c'est un principe. Globalement, c'est vrai. Mais ce n'est pas une promesse absolue comme quoi ça marche chaque fois. D'accord ? Un parent est appelé à instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera adulte, espérons, globalement, il va se rappeler de ces choses. Alors je pense que c'est important de faire ce rappel. J'ai souvent l'impression que nos jours, jours d'épanouissement personnel, que les enfants peuvent parfois être perçus comme une intrusion, un gêne, un mal nécessaire, une frustration qui limite ma liberté en tant que parent. Mais si tu es marié, si tu as pris la responsabilité d'avoir des enfants, alors tu es responsable devant le Seigneur d'investir en eux, de leur donner tout ce dont ils auront besoin pour qu'ils puissent devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. La responsabilité est énorme. Allez avec moi à Deutéronome 6. Deutéronome 6, à partir du verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Donc il parle à Israël, mais il continue. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, donc voici la loi que je te donne, afin que tu craignes, craigne ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Ha ! Toi, tes enfants, des petits-enfants? Quoi? Toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme je l'ai dit, l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Maintenant écoutez bien. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Écoute bien parents. Tu les inculqueras à qui? À tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ma responsabilité, c'est quoi? Premièrement, c'est d'aimer Dieu, d'aimer sa parole et d'inculquer cela à mes enfants. Quand? Quand? Ben, quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Globalement, constamment. Constamment. Ma vie, ça doit être comme une sorte de théière qui bout de l'eau, et je bous le Seigneur, et ce débordement déborde sur mes enfants à longueur de journée. Regardez avec moi Éphésiens 6, la contrepartie dans le Nouveau Testament. Éphésiens 6, alors on aime bien les trois premiers versets, d'accord? Alors ça c'est les enfants les versets dirigés à nos enfants. Et ah là, écoute bien enfant, écoute. Enfant. Ensuite on fronce un petit peu, on dit enfant, obéissez à vos parents. Ouais, gagné, tac, un point pour moi. D'accord. Selon le Seigneur, car cela est juste, enfant. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre, enfant. C'est vrai, non? Alors, c'est juste, les enfants doivent appliquer ces versets. Et seuls les enfants qui aiment Christ vont vraiment vouloir le faire d'un cœur joyeux. Mais regardez le verset 4. Et vous, père, un mot qui peut être utilisé pour papa, mais aussi pour parent. Et c'est vrai que dans un couple, mes amis, qui est le responsable de la famille, bibliquement parlant? C'est le papa. Donc quelque part, mesdames, vous pouvez écouter, mais papa, là c'est un petit peu une petite thérapie juste pour nous là, hein, d'accord? Il est vraiment dirigé au père, mais aux parents, bien sûr les deux, mais au père. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, donc on peut les irriter, on peut mal les élever en fait, nos enfants. Alors comment est-ce qu'on évite de les irriter? Ben, il nous le dit, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, on doit les élever. Comment? Comment est-ce qu'on les élève selon le Seigneur? Eh bien, faire deux choses. Les corriger et les instruire, c'est ce qu'il dit. Les corriger et les instruire. Donc quand ils désobéissent, il faut les corriger. Et ça, si vous voulez savoir comment, on va toute une leçon sur le cours qu'on est en train de faire sur l'éducation des enfants, qui va commencer début novembre. Et là, on aura toute une leçon sur comment discipliner nos enfants. Donc si vous êtes curieux par rapport à ça, c'est très important, et surtout de nos jours, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi pour le côté de la discipline des enfants. Mais qu'est-ce qu'on doit leur enseigner? Ben, plusieurs choses. Premièrement, il faut leur enseigner, et ils doivent savoir que le but numéro un de la vie est de glorifier Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il faut leur enseigner. Dans 1 Corinthiens 10:31, il y a ce beau verset qui dit ceci. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Nos enfants ont besoin de savoir qu'ils ont été créés par Dieu pour vivre à la gloire de Dieu. Deuxième chose qu'il faut leur envoyer, leur inculquer, leur enseigner, vos enfants doivent savoir qu'ils sont pécheurs. Ils doivent savoir qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont un problème, un cœur. Ils ont un problème de cœur, parce que tous les enfants, malheureusement, sont nés avec ce même problème. On est nés avec notre problème de péché. Dans Jérémie 16, 12, très mauvaise nouvelle. Jérémie 16, 12. Non, Jérémie 17, 12 plutôt. 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Et le chapitre 16, verset 12. Et voici, chacun suit les penchants de son mauvais cœur pour ne point m'écouter. C'est ce que Dieu dit par rapport au cœur humain. Et Genèse 8, 21, l'Éternel dit, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, vos enfants sont nés avec un cœur pécheur. Ils sont penchés vers le mal. Vous dites, mais John, tu ne comprends pas, mon bébé est tellement mignon. Je parlais avec une maman juste l'autre jour. J'ai dit, mais ton bébé, il est super beau. Il était dans une bonne phase, hein, tout souriant, il venait de manger, il était super. J'ai dit, je lui ai demandé, est-ce que je peux te poser une question? Elle a dit, ouais, c'est une maman dans l'église. Je lui ai dit, est-ce que tu as vu encore que ton enfant a un problème de péché? Elle m'a dit, haha, depuis déjà quand il était dans mon ventre. C'est ce qu'elle m'a dit. Déjà dans mon ventre, je voyais qu'il avait un problème de péché. C'est intéressant. La Bible nous dit qu'on est pécheur depuis notre conception. Donc c'est vrai. Donc ce petit bout de chou, déjà, pour elle, était un problème parce que il a un cœur pécheur. Tout enfant est né pécheur. Tous sont pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Mais le psaume 51,8 nous dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Donc, nous, parents, nous avons la responsabilité de faire que nos enfants réalisent qu'ils sont pécheurs, très jeunes. Tout enfant doit savoir qu'il est pécheur. Pourquoi? Parce que sans savoir qu'il est pécheur, il ne va jamais vouloir se tourner vers Jésus-Christ pour être pardonné de son péché. Si tu ne crois pas que tu es pécheur, tu n'as aucune raison de te tourner vers Christ. Et donc, quatrièmement, vos enfants ont besoin de savoir que les directives pour pouvoir vivre une vie à la gloire de Dieu se trouvent en Christ. En Christ. Il y a besoin urgent de rédemption. Et c'est pour ça que nous devons leur parler jour après jour après jour. Chérie, regarde ce que tu as fait. Ça révèle que ton cœur n'est pas aligné. Et la solution, tu peux essayer de corriger ton cœur toi-même, mais tu n'y arriveras pas. Tu as besoin que Christ vienne et transforme ton cœur. Et c'est étonnant de voir combien nos petits-enfants comprennent ces vérités. Et bien sûr, quatrièmement, il faut leur montrer que les directives pour la vie sont dans la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de leur lire des histoires bibliques, bien sûr, mais il y a des livres conçus pour leurs âges. C'est important. Enseignez-leur la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous me suivez dans mes points, là. C'est encore sous le point 2, mais là, on passe au grand point 3. L'aide de l'application. D'accord? Donc, on a vu que les parents doivent se rappeler que leurs enfants sont prêtés. Deux, les parents doivent se rappeler que les enfants doivent être instruits. Troisièmement, les parents doivent se rappeler que leurs enfants ont besoin de modèles. Attention, ce point, il fait mal. D'accord? Écoutez, les enfants sont comme des éponges. Non seulement ont-ils besoin de préceptes bibliques pour être menés au Seigneur, mais ils ont aussi besoin d'exemples bibliques venant de qui? De leurs propres parents. Ne vous leurrez pas, parents. Vos actions sont infiniment plus parlantes à vos enfants que le sont vos paroles. Si vous ne suivez pas le Seigneur, si vous n'êtes pas sérieux avec Christ, si vous n'êtes pas engagé pour Christ, il est douteux que vos enfants le seront. Alors bien sûr, il peut y avoir des exceptions, mais globalement c'est vrai. Ils vont suivre votre exemple. Si vous êtes trop occupé pour pouvoir consacrer du temps au Seigneur, alors ne soyez pas surpris de voir vos enfants trop occupés à leur tour pour ne pas pouvoir le suivre. Si vous êtes tiède ou froid vis-à-vis du Seigneur, alors vos enfants le seront probablement aussi. Il y a un exemple terrible de cette vérité dans la Bible. C'est un prophète qui s'appelait Élie, un prophète. Il avait deux fils. Mais il a lui-même vécu une vie de compromis. Il a été laxiste dans l'exemple qu'il donnait en tant que sacrificateur. Il a négligé d'inculquer à ses fils la rigueur et, de ce fait, il est devenu un mauvais exemple pour eux. Et lorsqu'il a essayé de reprendre ses fils, c'était trop tard. Ils étaient adultes, ils faisaient déjà leur truc. Le mal avait été fait, c'était un cas d'absentéisme du père. Il est terrible de lire dans la Bible, il est dit, 1 Samuel 2:12, « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Oh » Et ils étaient sacrificateurs. Le verset 22 ajoute, « Ils couchaient avec les femmes » qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation, ces femmes venaient servir le Seigneur et les fils d'Aaron profitaient d'elles et couchaient avec elles. Petit problème dans la famille, je dirais. Ben, le roi David, c'était pareil. Lui, il n'était pas sacrificateur, il était roi. Il a négligé l'importance qu'il y avait d'être père, un père modèle envers ses propres enfants. Vous vous rappelez, il a tué, il a pris une femme, il est devenu adultère. En tant que croyant, oui, il a fait des grosses gaffes. Il s'est repenti, mais le dégât était fait. Absalom, son fils, a carrément essayé de le tuer, car il voulait le royaume pour lui-même. Son fils Salomon, inspiré sans doute par l'adultère de son propre père, a pris lui des centaines de femmes pour lui-même et d'innombrables concubines, nous dit la Bible. Et toutes ces femmes ont mené son cœur loin de l'Éternel. Pourquoi ? Ben, l'exemple du Père. Le mauvais exemple du Père. Donc, parents, quelque part, je nous parle. Quel exemple sommes-nous pour nos enfants ? C'est vraiment important comme question. Est-ce que ma vie vibre pour le Seigneur ? Est-ce que Christ est le pilier de ta vie ? Prend-il la première place? Ou est-ce que Christ devient la place prise après que tout le reste vient avant? Un des immenses défis de nos jours, et je dis ceci pas pour culpabiliser, mais simplement parce que je crois que c'est vrai, c'est une réalité. Les familles où les deux parents travaillent plein temps compliquent la donne. Ça, c'est ce que je pense, je vous livre mon cœur. Certains enfants passent 8 à 10 heures par jour à être influencés par des personnes et des valeurs non bibliques. Il ne faut pas s'étonner lorsque l'influence de leur vie semble être plus une influence du monde que le Seigneur. Les enfants sont les éponges, mes amis. Ils vont devenir comme ceux avec qui ils passent du temps. Et pour pouvoir passer la majorité de notre temps avec nos enfants, de nos jours, va demander pour certains d'immenses sacrifices. Question, sommes-nous prêts à le faire ces sacrifices? Alors, est-ce que ça va garantir que les enfants vont suivre le Seigneur? Non. Mais je dois être un exemple. Je dois être un exemple. Et ça, ils vont le suivre, ça c'est sûr. Donc je pose la question, votre vie donne-t-elle envie à vos enfants de suivre le Seigneur? Oui ou non? Et quatrième application, les parents doivent se rappeler que leurs enfants ont besoin de leur prière. Ça, c'est simple, mais c'est vraiment important. Après tout avoir fait humainement ce qui est possible pour amener nos enfants au Seigneur, il y a un moment donné où tout ce qu'on peut faire, c'est de se mettre à genoux et vraiment prier, quoi. Et intercéder, intercéder, intercéder encore plus. Priez pour nos enfants. Et lorsque vous pensez avoir prié assez pour vos enfants, assez pour vos enfants, priez encore. Et demandez à d'autres de prier pour eux. Moi, je m'accroche à 1 Jean 5, 14, qui dit, Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Quelle promesse! On doit vraiment prier pour nos enfants. Est-ce que ça va garantir leur conversion? Non, et ça, c'est vrai que c'est de nouveau dans le domaine de la souveraineté de Dieu. Je pense souvent à ce verset dans Actes 16, 14, qui dit, parlant de Lydie, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Nous, on doit tout faire humainement, instruire nos enfants, prier pour nos enfants, être un modèle pour nos enfants, discipliner nos enfants, être régulier. Mais finalement, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir leur cœur pour qu'ils voient la splendeur de Jésus-Christ et qu'ils soient eux-mêmes, avec cette foi simple qu'ils ont, être convaincus qu'ils ont besoin du Sauveur. Alors oui, je m'accroche à Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Un certain homme du nom de Permanent était un grec. Il raconte l'histoire de ce que sa mère lui avait une fois dit. Lorsque Permanent est devenu chrétien, sa famille l'a rejeté. Et les portes de sa maison lui furent fermées définitivement. Mais de temps à autre, il revenait en secret voir sa mère qu'il aimait. Le cœur de sa mère était brisé du fait qu'il était devenu chrétien, mais n'a pas cessé de l'aimer. Et un jour, cette dernière lui a appris une chose étonnante. Sa maman lui a dit que lorsqu'elle le portait dans son ventre, un missionnaire lui avait donné une copie d'un des évangiles. Elle l'avait lu. Elle le possédait encore. Puis elle dit à son fils qu'elle-même n'avait aucun désir de devenir chrétienne, mais que parfois, pendant les jours qui précédèrent sa naissance, elle avait secrètement espéré que son fils devienne plus tard un homme comme ce Jésus. Et voilà, mes amis, le cri de cœur qui devrait être celui de chaque mère et chaque père pour son enfant. Je veux qu'il soit comme Jésus. Donc je termine. Parents chrétiens, que dois-tu faire aujourd'hui? Quel réglage faut-il faire dans ta vie pour que ce texte soit appliqué? Et là, si tu es ici ce matin, tu n'es pas chrétien. Eh bien, je te pose une question. Est-ce que tu veux rentrer dans le royaume de Dieu? Que tu veux le recevoir? Il faut avoir la foi d'un enfant. Viens dans la simplicité de ta foi et dis, Seigneur, aujourd'hui je réalise que je suis comme un enfant, je suis pécheur. Jésus est mort et ressuscité, il doit avoir les clés du pardon. Jésus, s'il te plaît, pardonne mon péché. Et laisse-moi rentrer dans ton royaume. Si tu fais ça, tu rentreras dans son royaume aujourd'hui. C'est ce que la Bible dit. Inclinons-nous et prions. Seigneur, aujourd'hui on se sent un peu petit par rapport à ce texte. Mais je pense que tous parents aujourd'hui, ben, on peut être, on révise notre vie, on se dit aïe, 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 toutes les erreurs que j'ai commises. C'est normal. Bien que tu nous as rachetés en Christ, Seigneur, eh bien, nous sommes encore dans notre chair et nous faisons des erreurs. Et Seigneur, moi je te demande pardon. Je te demande pardon pour les miennes, celles de mon épouse, mais aussi pour les parents qui sont ici ce matin, Seigneur, pour leurs erreurs. On te demande pardon, Seigneur. Mais on crie à toi et on te demande de nous aider. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons tout faire. Tout faire, humainement possible et spirituellement possible, pour conduire nos enfants à Christ. Seigneur, si des gens aujourd'hui sont dans la douleur, je te prie de les réconforter, Seigneur. Je sais qu'il y a des gens aussi qui ont des enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur aujourd'hui, qui se sont écartés. Ça, c'est dur, 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 Seigneur. Je te prie de les réconforter, Seigneur, et que ta volonté parfaite soit accomplie. Il y a certaines choses qu'on ne comprend tout simplement pas. Encourage ses parents, Seigneur. Et pour ces enfants qui se sont détournés, Seigneur, moi je ne les connais pas tous, mais moi je te demande de permettre qu'ils reviennent à Christ. Il n'est jamais trop tard de se repentir, de revenir, afin qu'ils puissent, eux, inculquer à leurs enfants les valeurs du Seigneur. Et si quelqu'un ici ce matin ne connaît pas Jésus, ô Seigneur, aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux ouvrir leur cœur, fais-le avec tout l'amour et toute la tendresse. Qu'il puisse être comme un petit enfant qui se jette dans tes bras, Seigneur. Et toi, tu les accueilles à bras ouverts. Seigneur, merci, merci pour cette scène touchante aujourd'hui et pour tout ce qu'elle nous a appris. Seigneur, à toi toute la gloire. Nous te louons et nous t'adorons et nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.